je vais aborder, vous avez vu, c'est déjà projeté, je vais aborder la prière. Mais il y a une... Il faut se préparer à ça. Parce qu'au fil des années qu'on a pu vivre, on s'établit dans nos vies des vérités. Des fois, c'est juste, et des fois, elles sont fausses. Et bien, quand Jésus est arrivé, il a été confronté à ça, à des vérités installées. Et il a dû dire, en vérité, je vous le dis, ça, c'est la vérité. Après, tu choisis. Est-ce que tu veux garder ta vérité qui n'est pas juste, ou tu adoptes celle de Jésus? Il n'y en a qu'une. Il n'y a pas ma vérité, il n'y a pas ta vérité, il n'y en a qu'une, c'est Jésus. Jésus est la vérité. Et donc ce matin, je voudrais parler de la prière, parce que dans mon cœur, il y a... Et tout ce que je vais vous dire, je l'ai vécu. Toutes ces erreurs que je vais énumérer, je l'ai vécu, mais à fond. J'ai connu toutes sortes de frustrations, toutes sortes de déceptions, toutes sortes d'échecs dans la prière. Je le sais, je l'ai vécu. Et un jour, j'ai dû changer. J'ai dû dire, Seigneur, tu as raison, je me trompe quelque part. Et le problème, c'est que lorsqu'on se trompe, on accuse Dieu. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas répondu à ma prière? Pourquoi il? On se trompe parce que notre vérité n'est pas juste. Et je voudrais ce matin réajuster certaines choses. Je ne vais même pas rentrer dans les détails de la prière, je vais juste établir un plan. Commencez par vous dire ce que la prière n'est pas. Parce qu'on est rentré dans une forme religieuse de la prière. C'est facile d'être religieux. Dès qu'on ne comprend pas, on établit une forme. On dit, ça c'est la bonne forme. Et donc on y colle, on y reste dedans, et c'est notre vérité, on se sent bien dedans. Et des fois, c'est par expérience qu'on explique les choses. Ça c'est la dernière chose à faire. Expliquer la Bible par son expérience. Mon expérience, ton expérience n'est pas la vérité. Jésus est la vérité. Des fois, on vit des choses et ça marche, on dit « ça, c'est la vérité ». Ou alors, ça ne marche pas, on dit « donc, ça, c'est la vérité, ça ne marche pas comme ça ». Il n'y en a qu'une. Et c'est pour ça que je voudrais ce matin être prêt à écouter avec une oreille attentive et avec un cœur disposé. Amen. La première chose, c'est ce que la prière n'est pas. La prière n'est pas une répétition de paroles. Je l'ai vécu aussi. Hein. Répéter la même chose, on a l'impression qu'en répétant, Dieu va accepter. En répétant, il va mieux comprendre. Plus la prière est longue, mieux c'est. Quelque part, au fond de nous, on a cette conscience, on a cette forme de plus ou moins de vérité. Dans Matthieu 6, versets 7 et 8, Jésus dit, « Or, quand vous priez, n'usez pas de vaines redites, comme les païens, car ils croient qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Moi, c'est un verset qui m'a intrigué, qui pose beaucoup de questions, qui enchaîne sur beaucoup de questions. Je me dis, mais s'il sait d'avance, pourquoi il ne le fait pas? Avant même que j'ouvre la bouche, il sait de quoi j'ai besoin. Pourquoi il ne le fait pas? On me dit que Dieu est amour. Et je peux poser une centaine de questions comme ça qui s'enchaînent les unes avec les autres. Et je vais essayer d'y répondre à certaines questions. Et donc, Dieu n'a pas besoin qu'on lui redise quelque chose. Parce que si vous redites quelque chose, vous êtes en train d'essayer de convaincre Dieu. En d'autres mots, vous êtes en train d'essayer de lui dire, t'as pas compris, je vais t'expliquer. Je vais te dire en fait ce qu'il faut que tu comprennes bien. Parce que sinon, ce n'est pas clair pour toi. Ça à oublier. Quelque part, on a envie aussi de redire les choses parce qu'on veut combler la prière. On se dit, si elle n'est pas assez longue, ce n'est pas bon. Ensuite, la prière n'est pas un levier pour convaincre Dieu. Des fois, on insiste, comme j'ai dit tout à l'heure, on essaie de lui faire comprendre que la situation est grave. Tu vois comme elle souffre, tu vois comme elle est malade, tu vois comme le problème est dur, tu vois comme j'ai mal, tu vois, il le sait. On n'a pas besoin de convaincre Dieu pour nous venir en aide. Donc ça élimine pas mal de choses dans la prière. On ne répète pas la même chose 36 fois, on va pas arriver dans la prière devant le Père pour essayer de le convaincre. Dans 1 Timothée 2,4, il dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. » Il n'a pas que les chrétiens, par une partie, par une sorte d'élite. Tous les hommes soient sauvés. Alors qu'est-ce que je vais lui convaincre sur quelque chose ? Et sauver, ce n'est pas simplement enlever les péchés. Pardonner les péchés, sauver, c'est dans tous les domaines de votre vie. Le salut comprend le péché et tout le reste. Parce que des fois, on s'attarde uniquement sur le péché. D'accord ? Le salut, c'est complet. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire, parce que s'il y avait une chose qui n'a pas été faite, qui n'a été faite à la croix, il faudrait qu'il revienne pour le faire. Tout est accompli. Tout ce dont vous avez besoin sur terre est accompli, parce que si ce n'est pas le cas, il faut qu'il revienne. Et quand dans le mot sauver, il faut voir très large. Très très large. Tellement large que Paul dit aux Éphésiens, il faut que je prie pour vous pour que vous compreniez la largeur de la grâce de Dieu. Parce que c'est tellement grand que vous ne comprenez pas. C'est ça sauver. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Jean 3,16 qu'on a évoqué tout à l'heure, car Dieu a tant aimé le monde, pas l'Église, le monde entier, tout le monde, et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on a besoin d'aller convaincre un tel Dieu ? On n'a pas besoin de lui raconter les choses. Ah, ça fait mal celui-là. On croit toujours que l'exaucement de la prière dépend de Dieu. On croit toujours que si ça c'est pas fait, et c'est là la source de beaucoup de frustration, beaucoup d'amertume, beaucoup de rejet. On rejette Dieu parce qu'on croit que c'est lui qui n'a pas exaucé. Ça n'a rien à voir avec lui. Dans 2 Corinthiens 1, 19-20, « Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui vous a été prêché par nous, par moi, Sylvain et Timothée, n'a point été oui et non, mais il a été oui en lui. Toujours oui en Jésus. Car autant il y a de promesses en Dieu, toutes sont oui en lui. Et amen en lui à la gloire de Dieu, par nous. À la gloire de Dieu, par nous. » Il y a le « nous » dedans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui est selon la volonté de Dieu, vous l'avez. Dieu ne met pas de restrictions. Des fois, on vit des échecs et on dit « oui, parce que Dieu a vu le péché » ou « parce qu'il y a telle chose dans ma vie », »« parce que Dieu a retenu ». Dieu ne retient pas. Je vais vous dire qui retient. Qui retient l'exhaustion de Dieu ? Ce n'est certainement pas Dieu. Bon, je passe assez vite parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Si on regarde dans Jean 14, 13, « Ce que vous demanderez en mon nom... » À un moment donné, Jésus dit à ses disciples, « Pour l'instant, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Il faut bien faire la distinction quand vous lisez la Bible, à faire la distinction entre l'ancienne alliance et la nouvelle. On n'est pas du tout dans le même registre. Pas du tout, mais pas du tout. La nouvelle alliance n'a rien à voir avec l'ancienne. Il ne faut pas mélanger les deux. Il va dire, oui, dans l'Ancien Testament, l'ancienne alliance, c'était comme ça, donc je dois faire pareil. Non. Ce que Jésus est venu faire à la croix, et aujourd'hui, on est en train de fêter, il a ouvert une porte, mais sur quelque chose qui dépasse notre entendement. Et on y est. On n'est pas sous l'ancienne alliance, on est sous la nouvelle. Et Dieu a tellement de choses pour nous, il est en train... Il a toujours voulu nous déverser cet amour et cette grâce, il ne pouvait pas. Et les prophètes et les anges sentaient qu'il y avait quelque chose de grandiose qui arrivait. Ce qu'on vit aujourd'hui. Ils ont voulu plonger le regard dedans, essayer de comprendre. Mais ils n'ont pas pu. Et on y est dedans. Et tout ce que Dieu avait en réserve comme amour, comme grâce, tout ce qu'il voulait nous donner, il l'a donné en Christ. Et Dieu ne retient jamais ses bénédictions. Quand vous demandez, vous l'avez. Alors on se pose la question, mais pourquoi ça ne se manifeste pas ? Jean 16, 23. En vérité, je vous dis. Non, je n'ai pas fini là. Ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Est-ce que vous voyez une restriction quelque part? À condition que si... La seule restriction, il y en a une. La seule en mon nom. Au nom de Jésus. Alors souvent, on croit que prier au nom de Jésus, c'est dire au nom de Jésus à la fin de la prière. C'est pas ça. Au nom de Jésus, c'est lorsqu'on est un avec lui, on est d'accord avec lui. C'est pas ajouter, sinon ça fait rituel, superstition, il suffit que je colle au nom de Jésus à la fin, ça y est, je l'ai. Non, ça marche pas comme ça. Jean 16, 23. En vérité, je vous dis, tout ce que, regardez bien, tout, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est, deuxième ligne, en mon nom. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Il n'y a pas de restriction. La seule restriction, c'est demander au nom de Jésus. Et lorsque vous demandez au nom de Jésus, vous savez que vous l'avez. Et si vous savez que vous l'avez, vous le verrez s'accomplir. Et si vous ne le voyez pas s'accomplir, c'est ce que je traite après. On a un boulot, on a un travail. C'est un peu comme si le... Vous êtes jardinier, laboureur, peu importe, vous plantez. Vous mettez une graine en terre, une graine qui est saine, dans une bonne terre. Vous plantez. Est-ce que vous voyez la graine germer? Non. Par expérience, vous savez qu'il faut attendre quelques jours, parce qu'il se passe quelque chose, et au bout d'un certain temps, ça va sortir, grandir et porter du fruit. Si ça ne l'est pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Qui va s'occuper de ce problème? La graine? Non, c'est vous. Si vous ne faites rien, la graine, elle meurt. Et dans la prière, c'est pareil. Amen. L'exaucement de la prière ne dépend pas de Dieu, mais de nous. Dieu donne, nous, on réceptionne. Le principe, c'est ça. Dieu donne, nous, on va réceptionner. Et si dans la réception, on ne fait rien, on croise les bras, on croit que parce qu'il a donné, ça va venir tout seul, on se trompe. On le voit bien dans notre vie. S'il suffit de Dieu de donner pour qu'on réceptionne, le monde serait autrement. Dieu donnerait à tout le monde et tout le monde réceptionnerait. Tout le monde serait guéri, tout le monde serait bien, dans la joie, dans la paix. Le monde, je vous promets, serait différent. Mais ça n'est pas le cas. Alors, où est le problème? La prière n'est pas pour expliquer la situation à Dieu. Et à votre Père sait, dans Matthieu 6, de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Ça, j'en avais parlé déjà. Toutes ces choses-là, on élimine. Donc, quelque part, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait dans la prière, alors? On a eu tendance dans la prière, on confond prière et demander. Quand on dit, on va prier, on sort la liste. 1, 2, 3, 4, je demande. Et quand j'ai fini de demander, j'ai fini de prier. C'est pas ça, la prière. La prière n'a pas une seule forme. Vous saviez ça? Il y a différentes formes de prière. Si vous adoptez qu'une forme de prière, vous passez à côté de tout. Je vous dis après, ce qu'est la prière, c'est très simple. Il est plus long de dire ce que la prière n'est pas que de dire qu'est-ce qu'elle est. Donc la prière n'a pas une seule forme. Dans Éphésiens 6, 18, il dit « Priant en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières ». Il y a différentes situations, il y a différents problèmes, il y a différents cas, et il faut aborder ces choses différemment. Nous ne sommes pas des êtres simples, Dieu nous a créés à son image. On vit la vie de différentes, sous différents angles, différentes facettes, on a différentes émotions, on a différentes... La relation entre nous et Dieu n'est pas, quel mot utiliser, monoforme, qu'une forme ou qu'une façon de faire. Je prends par exemple un parent avec son enfant. Est-ce que la relation père-fils ou père-enfant, peu importe, c'est toujours pareil? Imaginons que, moi je suis papa, j'ai trois filles, que ma fille vienne me voir tous les jours de 8h à 8h15, parce que c'est le temps de la prière, on va dire, un petit peu la prière, Papa, ouais, tu sais que j'ai mal aujourd'hui, il faudrait que tu me fasses ça, j'ai très très faim, il faut que tu me donnes à manger, et puis j'ai une mauvaise note à l'école, il faut que tu m'aides, etc. 8h15, boum, allez, je m'en vais. C'est un peu souvent ce qu'on a fait, ce que j'ai fait. J'arrive, vous priez, point numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Si ma fille me faisait ça, mais ça me tordrait les boyaux. Je vous promets. Et si on fait ça à Dieu, d'après vous, qu'est-ce que ça lui fait? D'arriver pour demander. J'arrive à ma liste. Ou alors, et j'ai 10 minutes là. Après, je ne peux plus. Il y a différentes formes de prière. Rapidement, je vous donne la liste. Il y a la prière de méditation dans Psaume 5.1. Il dit, Dieu, écoute ma méditation, ma prière. La prière d'accord, vous connaissez ça, dans Matthieu 18. Si deux ou trois qui sont là s'accordent, si vous vous accordez. S'accorder, ce n'est pas dire, je suis d'accord avec toi comme ça. C'est vraiment au fond de toi. Tu t'accordes sur une vérité, quelque chose qui est selon la parole de Dieu avec la foi, cette chose te sera donnée. La prière de demande, c'est celle qu'on aime beaucoup, celle-là. Et je vais en parler tout à l'heure. La prière d'intercession, où l'esprit pousse par des soupirs inexprimables. La prière en langue, la prière de louange et la prière de soumission, tout ça, je n'ai pas trop le temps de rentrer dedans, sont des différentes formes de prière. Alors, à quoi sert la prière? C'est très simple. A pour objectif principal d'établir et d'entretenir une relation avec mon père. Ma fille, quand elle vient me voir, on fait des câlins, discute, on rigole, on fait des choses ensemble, on reste des fois sans parler, 10 000 choses. Et j'apprends à connaître ma fille et ma fille apprend à me connaître. Et il y a une sorte d'intimité, il y a une sorte de relation profonde qui se crée. On ne peut pas mettre des mots dessus, mais ça se travaille et ça prend du temps. C'est quelque chose qu'on ne peut pas bâtir en un jour ou en deux jours, ça prend du temps. Ce type de relation, on ne décide pas, maintenant je veux avoir une relation avec toi, être, tu sais, intime avec toi. Non, ça prend du temps. Et si on ne prend pas ce temps, vous ne l'aurez pas. Ne mettez pas tout sur le dos de Dieu, Dieu est amour donc. Non, Dieu est amour, il est juste, puissant. Il y a beaucoup de qualificatifs pour Dieu. Surtout, Dieu est juste. Qui dit justice, dit il y a une loi. Et il faut respecter cette loi. C'est pour ça que les choses sont ainsi. Le reste, qu'est-ce que j'appelle le reste? Quand dans le jardin d'Éden, quand Dieu était avec Adam et Ève, et on va voir le verset après, il y avait une relation avec Dieu. Est-ce qu'il y avait des besoins? Que Adam ou Ève devaient se battre, dire « j'ai besoin de ça, j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là ». Non. Et pourtant, cette relation était là, il y avait du temps avec Dieu. Le reste est arrivé après la chute. Et c'est parce que Adam et Ève ont chuté que là, on avait besoin du reste. Sinon, le principal, l'objectif de la prière, c'est de dire « papa, j'ai envie de rester avec toi. J'ai envie de te parler, j'ai envie de te dire que je t'aime. J'aime ta parole, je t'aime, tu m'as sauvé ». Dire les choses comme j'ai envie de le dire. Remarquez que Jésus n'a jamais enseigné sur la prière jusqu'à ce qu'on lui dise, enseigne-nous sur la prière, Seigneur. Vous vous rendez compte de ça? Moi, ça m'avait tilté, ça m'a frappé. Je me dis, la prière est tellement présente et importante de la vie du chrétien. Je me dis, mais Seigneur, toi, là, à ton époque, avec tes disciples pendant 3 ans et demi, il a fallu qu'ils viennent te tirer ton pantalon pour te dire, enseigne-nous la prière. Parce que la prière, c'est une relation. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand il dit à Philippe, Philippe dit, mais montre-nous le Père. Il dit, mais depuis le temps que je suis avec toi, d'après toi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de te révéler Dieu le Père. Parce que ce qui est important, ce n'est pas tout le reste, c'est cette relation. Et tout ce que vous allez faire par la suite repose sur cette relation avec Dieu. Si vous n'avez pas ça, vous êtes dans l'activisme. C'est vrai. Si vous n'avez pas cette relation avec Dieu, vous êtes dans l'activité, vous construisez des choses sans fondement. Dans Genèse 3, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour, et Adam et sa femme se cachaient de devant la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu l'appela Adam et lui dit, c'est bien cette petite question, où es-tu? Dieu cherche l'autre, Adam, il cherche Ève, parce que Dieu a envie d'avoir une relation, d'avoir une communion avec nous. La partie, l'autre parlant, souvent c'est la partie demande occupe souvent la majeure partie de notre prière. Et ça doit être le contraire. Le contraire. Vous allez voir pourquoi cette partie, la relation, est si importante. Dans tous les domaines, moi j'ai pris le cas de la prière de demande, mais dans tout le reste, tout découle de cette relation. Sinon, c'est du superficiel. C'est de l'artificiel. C'est comme si ma fille vient me voir, me dire « Papa, qu'est-ce que je t'aime ?» si elle me voit que 5 minutes par jour, de temps en temps, en passant dans le couloir. Elle ne me connaît pas, je ne la connais pas. Mais par contre, quand ma fille me dit « Je t'aime », je le sais, c'est sincère, c'est profond, ça me touche au plus profond de moi parce qu'on se connaît, on a passé du temps ensemble, on est proches. Donc l'exaucement de cette partie de la prière, tout le reste, repose sur notre relation avec notre Père. Si vous n'avez pas ça, vous aurez du mal à voir le reste. Alors, on attaque la prière de demande. Il y a là où je demande quelque chose. Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Donc, il faut que demander. Alors, on peut se poser la question, ça entraîne encore l'autre question. Si Dieu sait de quoi j'ai besoin, pourquoi est-ce qu'il faut que je demande? Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des règles, il y a des lois. Vous savez qu'il y a, il y a des principes d'autorité. Dans Marc 11, 22 à 26, on le lit rapidement. Alors, l'histoire, il faut savoir dans le contexte. L'histoire, c'est Jésus, il avait faim, il va voir un figuier, il espère trouver des figues, il ne trouve pas, il n'est pas content, il dit au figuier, il parle au figuier, hein. Et en plus, dans la version la plus exacte, il dit, il répond au figuier. C'est plus intéressant encore. Il répond au figuier, il lui dit « Que plus jamais personne ne mange ton fruit. » Il s'en va, il y avait des disciples autour de lui, il revient le lendemain, et Pierre fait la remarque, « Seigneur, tu vois, le figuier a séché. » Et donc, cet enseignement vient à la suite de cette histoire. Il y a Pierre qui fait la remarque, « Le figuier est séché. » Remarquez ce que Jésus dit. « Ayez foi en Dieu. » Le lien entre le figuier et Dieu, la première chose qu'il lui dit, « Ayez foi en Dieu. » Alors que Pierre lui dit, « Seigneur, t'as vu, le figuier a séché. » Car je vous dis en vérité que quiconque dira à cette montagne, « Ôte-toi de là et te jette dans la mer, et qui ne doutera point dans son cœur, mais qui croira que ce qu'il dit arrivera, ce qu'il dit lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez. » Regardez ici, il dit, « Tout ce que vous demanderez en priant. » Ce qui veut dire la prière n'est pas uniquement de la demande. Pendant que tu pries, tu peux demander. En priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc là, il y a une foule de choses qu'on peut dire. Hein. La première chose qu'il faut dire, c'est quelle est la fondation? Sur quoi repose ma demande? Comme une maison a une fondation. Et ça, c'est important. La fondation de la prière de demande, c'est tout ce que vous demanderez en priant, ça c'est nous, ça repose sur une chose essentielle. Croyez que vous l'avez reçu. Si vous ne croyez pas ça, vous ne le verrez pas s'accomplir. C'est-à-dire, je demande quelque chose, je dois croire que je l'ai reçu. Comment? Alors moi, si par exemple, je vois quelqu'un dans la rue que je ne connais pas, je lui dis « passe-moi 5 000 euros », il me dit « ouais, ok, je te le donne. Est-ce que je vais croire que je l'ai reçu ?» C'est quelqu'un que je ne connais pas. J'aurais beaucoup de mal à le croire. Par contre, si c'est quelqu'un que je connais très bien, je lui dis, j'ai besoin de 5 000 euros. Il me dit, oui, je te le donne, pas de problème, t'inquiète pas, demain tu l'auras. Je crois, parce que je connais la personne. Donc, vous voyez où je veux en venir. Je peux facilement croire si je connais mon père. Si je ne le connais pas, j'aurais beaucoup de mal à croire que je l'ai reçu. On vit dans un monde. Dans ce monde-là, on le vit à travers nos 5 sens. On baigne dedans depuis notre naissance. On a appris à suivre la logique de ce monde et la pensée de ce monde. Et là, tout à coup, qu'est-ce que Dieu nous dit ? Change. Tu vas aller contre-courant. Ce monde ne dit jamais, crois que tu l'as reçu avant de le recevoir. Il dit, quand tu le verras dans ta main, tu pourras dire que tu l'as reçu. Et là, Dieu dit non. En d'autres mots, il nous pousse à quoi ? Il nous pousse à nous appuyer à une confiance totale en lui. Crois que tu l'as reçu. Ça rejoint le verset qui dit, mon juste vivra par la foi. Dans le mot vivra, ça comprend tout. Vivra, c'est tout ce qui est nécessaire à la vie. Tout ce qui est bon pour toi, tu le recevras par la foi. Pas par des plaintes, pas en se plaignant, pas en languissant, pas en gémissant, pas en répétant, mais par la foi. Donc, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ce qui veut dire, la phrase du bas, si vous l'avez reçu au moment de prier, où vous avez prié, Dieu a fini. Logique. Comment je peux avoir quelque chose à faire avec vous si cette chose m'avait demandé ça ? Je vous la donne, moi j'ai fini. C'est plus avec moi, je ne l'ai plus. Qui la possède maintenant ? C'est vous. Un autre exemple. Vous demandez un chêne, ou un pommier, ou peu importe. Dieu vous donne une graine. Il n'a plus la graine. Qu'est-ce que vous en faites ? Ah, ben c'est une graine, non, j'en veux pas, je pose sur la table, elle meurt. Tu es responsable. Par contre, je prends cette graine, je sais qu'il y a des lois spirituelles, je sais qu'il y a des règles à respecter. Et quand je comprends ces règles, je sais qu'une graine ne pose pas sur la table, il faut l'enterrer dans un bon terrain, une bonne terre, il faut l'arroser, surveiller. Je fais ça, qu'est-ce que je récolte ? Mon chêne ou mon pommier. D'accord ? Je suis responsable de l'exaucement. Dieu donne la graine. C'est tout. Il dit, d'ailleurs, Jésus compare sa parole à des graines qu'il sème. Il ne sème pas le résultat, il sème sa parole. Alors, si vous l'avez reçu au moment où vous avez prié, parce que, alors, je reviens dessus, croyez que vous l'avez reçu, c'est pas une façon de penser. Parce que des fois, Dieu, oui, ouais, d'accord, ok, oui, ça, c'est bien de penser comme ça. Non, c'est une réalité. Je ne sais pas si je suis assez clair là-dessus. C'est-à-dire que votre comportement, votre façon de parler, votre attitude, vous agissez comme quelqu'un qui le possède déjà. Je vais l'exprimer autrement. Vous participez à un jeu. Vous gagnez au jeu, premier lot loto, un truc comme ça, gros lot énorme. On vous fait un gros chèque signé par la banque, Crédit Agricole, peu importe, une banque reconnue, voilà. D'accord ? Un vrai chèque de banque. Du vrai, quoi. Hein, c'est pas du pipeau, c'est du sérieux. Vous attrapez le chèque. Est-ce que pour autant, vous avez l'argent ? Non. Mais vous avez confiance que si vous prenez ce chèque, vous allez agir comment ? Ah, je suis triste, j'ai qu'un bout de papier avec 2 millions d'euros dessus. Non. Moi, on me donne ça, je vais être hyper content. Je vais attraper le chèque, saute de joie, je vais dire... Ouais, super, on va changer de maison, truc, machin, voilà, on va faire des projets, on va commencer à cogiter toute la nuit, on va rêver, on va dire à tout le monde, enfin, il y a voilà, les travaux, c'est fini, voilà, on change de bagnole, et tout à coup, qu'est-ce qui se passe ? On est différent. D'accord ? Je suis différent pourquoi ? Parce que j'ai l'argent ? Non. Parce que je sais que je l'aurai. Et là, c'est pareil. Lorsque vous comprenez, lorsque vous acceptez, lorsque vous êtes sûr, de chez sûr, de c'est sûr, vraiment sûr que votre père que vous connaissez vous l'a donné, votre comportement change. Vos paroles changent. Votre attitude change. Tout change. Tout montre qu'il y a quelque chose qui est en gestation. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Si je ne vois pas le résultat à travers ton comportement, c'est que tu ne l'as pas encore eu. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. Exemple, pourquoi un laboureur va arroser un terrain ? Il n'y a rien. Parce qu'il sait qu'il y a une graine en dessous, qui a besoin d'eau. Pourquoi il va pousser le chien et va ailleurs ? Parce qu'il sait qu'il y a une graine en train de germer. Pourquoi il va arracher la petite herbe qui commence à pousser? Parce qu'il prend soin de quelque chose qu'il ne voit pas. Et moi, son voisin, quand je le regarde, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je regarde, il gratte, il pousse le chien. Pourquoi il s'occupe de ce bout de terrain? Son comportement est cohérent avec ce qu'il attend. Vous comprenez l'idée? Alors, sinon, ce serait incohérent. Croyez que vous l'avez reçu, en d'autres mots, montrez-moi que vous l'avez reçu. Que je le vois par votre vie, que je le vois par vos paroles, que je le vois par votre attitude. Une démonstration de ce que vous avez déjà. Amen. La prière de demande est un processus. C'est pas je claque des doigts, ça arrive. Ça coule. C'est-à-dire, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. D'accord? Donc il y a un temps. La question de la durée, j'en sais rien. Combien de temps ça prend? Aucune idée. Mais par contre, ce que je sais, et ça c'est sûr, c'est qu'on peut faire durer et qu'on peut faire aussi que ça n'arrive jamais. Donc la prière de demande est un processus. Si on prend, il n'y a pas les versets là. Dans Daniel chapitre 9, Daniel prie une première fois. Il a à peine fini sa prière, l'ange est là. Et l'ange lui dit, dès que tu as commencé à prier, je suis parti. On va dire à peu près 3 minutes. L'ange est arrivé. Et à quel moment l'ange est parti? Remarquez bien. Dès que tu as commencé à prier. Si vous croyez que Dieu tarde à vous répondre, vous trompez. Dès que vous demandez, il demande. Dès que vous ouvrez la bouche et que vous priez au nom de Jésus, vraiment, Dieu donne. Ça, il faut le comprendre, ça. Hein? Et donc, l'ange arrive 3 minutes après. Chapitre 10, dans Daniel. Daniel reprit encore. Mais l'ange arrive 3 semaines après. Beaucoup, beaucoup plus de temps après. Et l'ange lui dit pareil ici, dès que tu as commencé à prier, je suis parti. Mais le prince de truc perse, je crois, m'a retenu. Ça vous montre qu'il y a une bataille. Vous avez un ennemi, que vous le vouliez ou pas. En fait, vous en avez 2 ennemis. Il y en a un, vous connaissez bien. L'autre, on va voir. Alors, si je crois que j'ai le retenu, je vais faire en sorte qu'il apparaisse dans ma vie. N'oubliez pas, Dieu est esprit. Votre réponse, lorsqu'il donne, il le donne en esprit. Il ne donne pas en matériel. Il faut le faire venir, le faire descendre. L'ange est parti, l'esprit. Il est venu sur la terre pour montrer à Daniel, pour que Daniel puisse recevoir l'exaucement et lui parler. Il a dû se battre avec un démon. Croyez que vous l'avez reçu, vous le recevrez. Alors, il peut y avoir plusieurs obstacles. J'avais pris l'image une fois de la montagne. Imaginons que votre prière, c'est qu'il y ait de l'eau. Dieu verse l'eau en haut de la montagne. Et lorsqu'il l'a versée, où est l'eau? À Dieu? Non, il l'a plus. Il l'a donné. Et l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va descendre. Si vous restez en bas, passif, à attendre que l'eau arrive, j'ai prié, j'attends. Vous risquez de ne pas avoir une seule goutte. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir 10 000 choses qui peuvent l'empêcher d'arriver. Quelqu'un qui dévie le cours de la rivière, qui met un barrage, qui fait n'importe quoi, qui pompe l'eau, etc. Donc, il peut y avoir plusieurs obstacles qui viennent se mettre au travers du processus d'exaucement. Des obstacles qui viennent du diable, ça c'est évident, mais beaucoup de nous. Et ça, c'est moins évident. Il y en a beaucoup de nous. D'accord? On peut être un obstacle dans notre prière. Alors, les obstacles qui viennent du diable. Marc 11, 23. Lorsque l'ennemi s'oppose à vous, d'accord? Jésus nous a donné l'autorité. Lorsqu'il a envoyé dans Matthieu 10, je crois, ou, ouais, c'est ça, ses disciples, il dit, il leur donne autorité et puissance. Il n'envoie pas les mains vides comme ça. Hein? Il a donné autorité et puissance pour partir prêcher l'évangile. Et dans Marc, je reviens à Marc 11, 23, c'est l'histoire du figuier encore. Hein. Et Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. En gros, il est en train de dire, s'il y a quelque chose qui est sur ton trajet, ton chemin, tu le bouges. Mais il faut que tu parles à la montagne. Il faut que tu lui parles à cette chose. Si tu ne lui parles pas, si tu ne prends pas autorité, si tu ne la bouges pas, elle restera là. Donc ça, je n'ai pas le temps de creuser, mais c'est important. Dans Romains 8, 26, l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses, car nous ne savons ce que nous devons demander. Nous ne savons pas comment il faut prier exactement. La vraie prière, on ne sait pas. Est-ce qu'on sait les choses? Non. Car nous ne savons ce que nous devons demander pour prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne peuvent s'exprimer. Donc, lorsqu'il y a une bataille, on utilise ce genre de prière. Alors, maintenant, les obstacles qui viennent de nous. Toujours dans Marc 11. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez, que vous le recevrez, et cela vous sera accordé. Regardez le mot que j'ai mis en rouge exprès. Mais. Le mais, ça veut dire qu'il peut y avoir quelque chose qui vienne bloquer ça. Mais, quand vous vous présenterez pour faire votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Et tout ça, c'est dans la foulée de l'histoire du figuier. Hein? Toujours pareil. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Que si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jésus est en train de dire, attention, tu demandes, ok, mais attention qu'il n'y ait pas de problème entre toi et ton frère. Sinon, c'est un obstacle. Tu n'auras pas. Sinon, c'est un mur que tu mets. C'est important, ça. D'accord ? Et des fois, on a ces murs dans nos vies, on prie, on demande, on ne reçoit pas, on dit c'est la faute de Dieu. Non, c'est notre faute. Autre obstacle, 1 Pierre 3, 7, dans les couples. Marie, de même, conduisez-vous avec sagesse envers vos femmes, comme envers un être plus faible, en lui rendant honneur, puisqu'elles hériteront avec vous de la grâce de la vie, afin, il y a une suite logique, il y a un lien entre les deux, afin que vos prières ne soient pas, point, entravées. Une prière peut être entravée. D'accord ? Et qui est responsable dans ce cas-là ? Si c'est dans un couple, si le mari ne fait pas ce qu'il faut, le mari prie, et par son attitude, il peut entraver sa prière. Nos confessions. Alors là, les confessions, on en a des tonnes. Hein. Moi, j'ai un voisin qui, plusieurs fois, il m'a dit, ouais, petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. C'est une malédiction. Si vous dites oui, vous maudissez vos enfants. Ça, j'ai horreur de ça. On a des paroles toutes faites comme ça, des expressions dans le monde, et on se maudit les uns les autres, et on dit oui, non. Je lui dis non, petits enfants, petits bonheurs, grands enfants, bonheur, et grand bonheur. Il n'y a pas de grand problème, non. Et à chaque fois, il me dit, ouais, tu verras. Non, c'est tout vu, ça va bien se passer. On parle toujours de crise d'adolescence, comme si on attend cette crise, elle n'est pas venue, elle va arriver. Arrêtons de se maudire les uns les autres. Quoi. Ah, par exemple, ah, ça me tue. Ah oui. On dit des choses, on ne se rend pas compte. Jacques dit, notre bouche a le pouvoir de la vie, de la mort. Et vous savez que le Satan est rusé. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il ruse là-dedans pour que notre bouche, on l'utilise contre nous-mêmes. C'est comme si vous attrapez un soldat. Vous n'avez pas d'épée, vous prenez sa main qui a l'épée et vous tapez sur lui. En gros, c'est ce qu'il fait avec ses expressions. Jacques dit, par elle nous bénissons notre Dieu et Père et par elle nous maudissons les hommes, faits à la ressemblance de Dieu. D'une même bouche procèdent la bénédiction et la malédiction, mes frères, il ne faut pas que ces choses aillent ainsi. On ne peut pas faire les deux en même temps. En gros, il parle de eau douce, eau amère. Une fontaine ne peut pas donner en même temps de l'eau douce et de l'eau amère. Non, ce n'est pas possible. Il faut servir notre bouche. Par exemple, Jésus dit, tu dis à ton frère, raca, imbécile, je ne sais plus s'il a dit, ça mérite la gêne. Moi, quand j'ai lu ça, je me dis, mais c'est juste un mot. C'est juste un mot. Mais pour lui, non, c'est plus qu'un mot. On tue par la parole. Il faut en être conscient, ça. Vous ne devez pas parler légèrement et vous ne devez pas accepter ce qu'on vous dit légèrement. Parce qu'on a peur des fois de froisser les gens. Non, les gens vous maudissent à longueur de journée et ils se maudissent eux-mêmes sans s'en rendre compte. Autre obstacle, nos amertumes et nos irritations. Ces choses, il faut qu'on enlève. Jacques dit, si vous avez une envie amère et de l'irritation dans vos cœurs, ne vous glorifiez point et ne mentez point en déshonorant la vérité de l'Évangile. Car ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut, mais c'est une sagesse terrestre, sensuelle et, j'ai mis en rouge, diabolique. D'accord ? Ce sont les choses qui entravent nos prières. Notre orgueil. C'est évident. Dieu résiste aux orgueilleux. Si Dieu vous résiste, qu'est-ce que vous voulez lui demander ? Il vous résiste. J'ai pris deux exemples. Matthieu 6. Et quand tu prieras, ne fais pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues au coin de rue. Je vous le dis à la fin, ils reçoivent la récompense. Nous, on n'a pas de synagogue, on ne va pas prier, etc. Mais nous, comment est-ce qu'on peut le faire actuellement ? J'ai prié 3 heures. On est content d'avoir prié 3 heures. Ou tous les matins, je me lève à 6 heures. Ou j'ai fait tel truc. On est fiers de nous d'avoir fait quelque part une sorte de marathon d'exploit ou je ne sais pas. Lorsque l'autre vient me dire « Ah ouais, c'est super ce que tu as fait, ben, j'ai reçu ma récompense. » Jésus est en train de dire « Prie comme ça et que tu reçois la récompense au travers des hommes et des femmes autour de toi qui alimentent ton orgueil, ben, n'espère pas recevoir quelque chose de Dieu. Tu as déjà reçu ta récompense. » D'accord ? Et juste après, il dit « Mais lorsque tu pries, rentre dans ta chambre. » Ce n'est pas forcément le fait d'entrer dans ta chambre physiquement. Ça peut être bien aussi. Mais c'est le fait que tu ne reçoives pas la gloire des hommes, mais que tu cherches une seule récompense. On peut en avoir deux. On peut avoir la récompense des hommes ou de Dieu, laquelle on cherche. Si tu veux celle de Dieu, eh bien, oublie celle des hommes. Tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Et j'ai fini. Voilà. Donc, pour résumer tout ça, comment ? Différentes sortes de prières ? Donc, je crois que le sujet de la prière, c'est un sujet très important, c'est très vaste. Ce que j'ai essayé de faire ce matin, c'est de brosser un plan, surtout de dégager ce que la prière n'est pas et de dire ce que la prière est. La prière est très simple. Il faut prendre les choses très simplement. La prière, c'est bâtir une relation avec mon Père, une communion, l'intimité. Et toute cette partie que je viens de développer, rapidement aussi la demande, c'est une infime partie. Je vous donne un exemple. Jean 17, vous connaissez Jean 17. Jésus qui fait sa prière tout le chapitre. Il s'en va, il laisse ses disciples, dit « Papa, j'ai fait ce que tu m'as demandé, je n'ai perdu personne de ce que tu m'as donné, sauf celui qui devait me trahir, etc. Je veux que tu aies la gloire que tu m'as donnée, leur soit donnée, que je sois un avec eux, etc. » Jean 17. Si vous lisez Jean 17, ça vous prend 2 minutes. Et quand vous regardez ce que Jésus prie dans Jean 17, mais c'est tellement important, c'est tellement lourd de conséquences, il l'a fait 2 minutes. Moi, une telle prière avant, je l'aurais priée pendant 2 mois. Lui, il l'a fait en 2 minutes et c'est terminé, c'est plié. Pourquoi c'est fini ? Parce qu'il connaît son Père. Il lui dit une fois, en 2 minutes, c'est fini. Et pourtant, c'était hyper important parce que Jésus est venu pour mourir sur la croix et donner l'Évangile. À qui il a confié l'Évangile ? À un petit troupeau. Et ce petit troupeau-là, il avait besoin de protection. Il dit, papa, protège-les. Tout ce que j'avais, je leur ai donné. Ta parole, je leur ai donné. La parole, elle était où ? Dans ce petit troupeau. Et sa prière, en 2 minutes, c'était fini. Après, il est fini. Il a fini, il s'en va. Lorsque vous connaissez votre Père, vous n'avez pas besoin de le harceler avec la demande. Vous dites, une fois, c'est fini. La prière de demande, alors je vais résumer cette partie-là. La prière de demande se fait une fois. Mais après, il y a tout le travail. Il faut déplacer les montagnes, il faut surveiller, vérifier, arroser, suivre le processus jusqu'à accomplissement. Et ça vient. Ça vient si vous avez cru, et s'il n'y a pas d'obstacle dans votre vie, ça doit arriver. Et je termine sur juste un principe là qui me revient. Des fois, on croit que Dieu change d'humeur, il bénit certaines personnes, pas d'autres, ou une certaine génération, pas d'autres, un certain pays, pas d'autres, etc. Tout ça, c'est faux. Il n'y a qu'une vérité, ce qui est écrit dans la Bible. Il n'y a pas de favoritisme. Alors, il faut comprendre qu'il y a des règles dans la prière, il y a des lois spirituelles. Il y a beaucoup de lois spirituelles qu'il faut connaître. Si on ne les connaît pas, on va rentrer dans un mur. C'est un peu comme quelqu'un qui veut cultiver, il ne connaît pas les lois de la nature. Hein. Il ne sait pas qu'il faut planter la graine, il ne sait pas qu'il faut arroser, il ne sait pas 10 000 choses. Comment veut-il ? Il ne va jamais arriver à avoir quelque chose. Et c'est la faute à qui ? Ben, c'est en ignorance. C'est pour ça que Paul dit, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. On a besoin d'apprendre et de comprendre. Ce que j'ai voulu faire ce matin, c'est de vous donner des balises, des repères sur lesquels s'appuyer pour approfondir votre moment de prière. Amen. Allez, on va prier. Papa, je te rends grâce pour ce moment. Je te rends grâce pour ta parole. Que ces paroles restent dans nos cœurs et produisent des fruits, Papa. Alléluia. Merci pour ce moment. Amen.